Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le thème de cette émission, eh bien, c'est la culture scientifique. Nous allons traiter de ce thème avec M. Rudolf Kusch. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Lille.
Oui, exactement.
Et donc, la culture scientifique, c'est quelque chose qui est mis à l'honneur une fois par an. Au-delà de ça, pour vous, c'est quelque chose de quotidien et qui traverse le temps.
Oui, si on peut dire comme ça. Encore que le terme culture scientifique, c'est un mot très ambigu. Je crois quand même qu'il faut remettre un certain nombre de choses au point. Cette notion de culture scientifique et le mouvement qui s'en est suivi est né dans les années 70, à l'époque justement où la science perdait de sa valeur sociale. Alors ça, pourquoi la science a perdu de sa valeur sociale? On pourrait dire que jusque dans les années 60, on a vécu dans une idée du progrès, d'un progrès qui allait continuer constamment, ne pas s'arrêter, et qu'on a vu apparaître ce qu'on pourrait appeler les dégâts du progrès. Les dégâts du progrès ont commencé bien avant. C'est d'une part Hiroshima. Hiroshima a marqué un tournant. Un tournant, non pas que c'est la première fois qu'on utilisait la science pour faire la guerre, mais c'était quelque chose de nouveau. Bon, un bombardement tout à fait nouveau, avec une arme totalement nouvelle, qui fait que un certain nombre de physiciens se sont posé la question, non pas de ce que signifiait la physique, mais de ce qu'ils avaient fait. Alors d'une part, il faut expliquer quand même pourquoi la bombe atomique, parce qu'effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une espèce de course, du moins on le croyait, entre, je dirais, les Alliés et puis l'Allemagne, qui avaient tous les deux des moyens de construire une arme atomique, et on craignait que l'Allemagne ait l'arme atomique. Donc, question, créer l'arme atomique du côté allié avant l'Allemagne. Ce qui a entraîné ce qu'on appelait le projet Manhattan, dans lequel la question était non pas de développer la science, de la physique, mais de construire cette arme. Elle a été construite. Le problème, c'est que l'armistice a eu lieu en mai 45, que la bombe a été envoyée à Hiroshima sur le Japon, alors que le Japon était encore en guerre, et que l'Allemagne avait cessé la guerre. Et que on peut se demander pourquoi les États-Unis avait lancé cette bombe, alors que parmi les protagonistes, ceux qui avaient poussé à la création de la bombe atomique, je pense en particulier à des physiciens comme Einstein ou Oppenheimer, étaient contre. Alors là interviennent des choses qui sont plus de l'ordre de la science, mais qui sont de l'ordre de la politique. Et que d'une certaine façon, la création de la bombe atomique, ça a été une façon pour la politique, de mettre la main sur la science. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut analyser, regarder qu'est-ce que ça voulait dire, et que, dès 46-47, s'est créé chez les physiciens un mouvement contre l'utilisation militaire de l'arme atomique, contre l'utilisation militaire de l'énergie nucléaire. Et dans les années 50, on a vu se mettre en place des mouvements comme le mouvement Pugwash, mis en place par des gens comme Einstein et Russell, qui était un mathématicien anglais, contre l'usage militaire, mais avec la chose suivante, on a vu dans l'énergie nucléaire une richesse énorme pour le développement économique du monde. Par conséquent, je dirais, le problème dans les années 50, contre l'usage militaire, mais pour l'usage pacifique. Et puis peu à peu, on a pris conscience que l'énergie nucléaire, comme d'autres énergies d'ailleurs, avait des conséquences nuisibles, qui ont conduit à prendre conscience, je dirais, dans les années 60, de la pollution. Puis avec tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas refaire l'histoire, bon. Autrement dit, ce qui a été mis en cause à ce moment-là, ça n'a plus été l'usage de la science, mais la science elle-même. Ce qui était un déplacement complet et une confusion totale entre la science et les usages de la science. Mais une confusion, je dirais, qui est courante entre un phénomène fabriqué par l'homme, la science, et puis les usages qui peuvent être aussi bien bénéfiques que maléfiques. C'est dans ce contexte que s'est mis en place un mouvement qu'on a appelé critique de la science, qui était très ambigu, parce qu'à la fois, il y avait un aspect anti-science, qui dure encore, il y avait un aspect critique, qu'est-ce que c'est que la science, comment s'intègre la science dans une société humaine, et puis il y avait un aspect mythique, à savoir une expression que beaucoup utilisaient les gens de culture de la science, dont je faisais partie d'ailleurs à l'époque, c'était mettre la science en culture comme si la science ne faisait pas partie de la culture. Et qu'effectivement, c'est venu d'une chose aussi, d'une opposition qui est racontée d'ailleurs par un écrivain qui est à la fois physicien, théoricien et qui écrivait des romans, C.P. Snow, qui est un anglais, qui a écrit un ouvrage qui s'appelait « Les deux cultures », dans lequel il se moquait à la fois de ces scientifiques qui méprisaient la culture littéraire et de ces littéraires qui méprisaient la culture scientifique, comme si c'était deux mondes différents. Et cette différence, elle est apparue, je dirais, dans l'histoire, mettons au XIXe siècle. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que jusqu'avant, les littéraires et les scientifiques, ou plutôt, c'était plutôt les philosophes et les scientifiques, quand ce n'était pas les mêmes, du moins travaillaient ensemble. Pourquoi cette coupure ? Peut-être liée à quelque chose qui n'est pas un mal, mais qui est une nécessité du travail scientifique, la spécialisation. Quand on travaille, on est obligé de se spécialiser, sinon on n'avance pas. Alors quand on se spécialise, il y a un risque, c'est qu'effectivement, on oublie le reste. Alors c'est un risque nécessaire, je veux dire qu'on parle beaucoup dans la société actuelle d'ouverture, on parle très peu de fermeture. Or, la vie, et la vie intellectuelle, mais pas seulement la vie intellectuelle, c'est les moments de fermeture et les moments d'ouverture. Si vous ne vous fermez pas, vous ne pouvez pas travailler. Parce que quand on fait quelque chose, il faut oublier le reste. Puis si vous fermez trop, ben, à ce moment-là, ça n'a plus aucun rapport avec le reste. Alors, bon, le problème, c'est qu'on n'a pas été capable de le poser de cette façon qu'avaient les partisans de la fermeture, les partisans de l'ouverture, les partisans de la science, les ennemis de la science, et qu'on arrive aujourd'hui à un moment où, finalement, la science est considérée uniquement sous son aspect utilitaire. La science, ça sert à faire des machines. Ce qui est à la fois vrai et faux. Si on fait des machines, c'est parce que la science, ça a servi à autre chose qu'à faire des machines. Est-ce que les machines précèdent la science ? Est-ce que la science précède les machines ? On peut discuter longtemps. Quand on fait de l'histoire des sciences et des techniques, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de règle. Tantôt, c'est les machines, tantôt, c'est la science, tantôt, c'est la technique qui précède, tantôt, c'est la science qui précède et qui permet de développer une technique. Enfin, quand on est historien, il faut surtout se méfier des principes premiers qui consistent à dire « c'est à partir de là ». C'est vrai qu'on a un mauvais exemple, je dirais, une catastrophe magnifique d'ailleurs, parce que le bonhomme, c'était quelqu'un de grand. La catastrophe du XIXe siècle s'appelle Hegel. Et on peut dire, alors là, je veux pas rentrer dans le débat, je peux dire que le point faible du marxisme, c'est Hegel. C'est dommage, parce qu'effectivement, ça a tué le marxisme. Bon, même si aujourd'hui, il tente de revivre. Ça a tué parce qu'effectivement, au lieu d'avoir une position purement matérialiste, il a une position, je dirais, dans laquelle se mêlait une espèce de téléologie, à savoir que l'histoire avait un sens. Elle n'en a pas. Bon. Alors maintenant, pour revenir au problème de la culture scientifique, eh bien, on est dans une société dans laquelle la science est complètement dévalorisée, sinon parce qu'on pense qu'elle apporte du bien-être, c'est tantôt vrai, tantôt faux, parce qu'on pense qu'elle participe de l'exploitation capitaliste, ce qui est à la fois vrai et faux, parce que le capitalisme se serve de la science pour s'enrichir, c'est une chose, mais le capitalisme se sert de tout ce qui peut lui permettre de gagner de l'argent, y compris en détournant les choses bien. Bon, si on veut comprendre la science, il faut suffire de regarder uniquement la façon dont elle est utilisée. Maintenant, il y a autre chose. Cette vision utilitariste de la science, qui se développe de plus en plus, et qui est liée au développement du capitalisme, parce que finalement, quel est l'intérêt de la science? C'est de fabriquer des machines et de les vendre. Et on les vend parce que finalement, on apprend aux gens que sans les machines, eh bien, ils peuvent pas vivre. Bon. Résultat, vous avez la folie d'Internet. Internet, c'est une chose remarquable. Je pense que dans 50 ans, on saura peut-être utiliser Internet. Actuellement, on ne sait pas. Techniquement, on sait. Mais l'usage d'une machine, ce n'est pas un problème technique. Il y a une partie technique, mais une partie, je dirais, savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Vous avez un développement de tous les dérivés d'Internet, les AI machin chose, il y en a plein, dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent. Ils sont utiles, on peut faire des choses avec, mais on considère qu'il faut avoir un AI quelque chose, parce que le AI permet quoi, on ne sait pas. Mais c'est bon, donc on se trouve devant quelque chose dans lequel la science, c'est ce qui pourrait permettre de produire aujourd'hui, de produire des AI, ou de produire, comme on dit, de l'immatériel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'immatériel? Non, il n'y a pas d'immatériel. Internet, ce n'est pas d'immatériel. D'abord, il faut un ordinateur qui est une machine. Il faut un logiciel qui est une machine. Il faut du courant électrique. S'il n'y a pas de courant électrique, eh ben vous ne ferez pas marcher Internet. Donc, vous avez tout un mélange de choses, et que peut-être, quand on parle de culture scientifique, c'est essayer de savoir de quoi on parle, que signifie la science dans la société, à tous les points de vue. Et puis distinguer la science qui est une volonté de comprendre le monde, et celle-là, elle est ancienne. Bon, on peut dire qu'effectivement, on est les héritiers des Grecs, même si la science a commencé avant les Grecs. On est les héritiers des Grecs, avec des ruptures. Et pour les Grecs, ben, d'une part, la science était comprendre le monde, puis c'était aussi, alors à une échelle beaucoup moindre, fabriquer les machines. Quand est-ce que c'est de la science, quand est-ce que c'est pas de la science, ça on peut discuter longtemps, c'est une question de définition. Donc voilà un peu, l'enjeu d'un débat sur la culture scientifique. Qu'est-ce que c'est que la science? Qu'est-ce qu'elle signifie dans la société? Quels sont les usages ou les mésusages? Et qu'on soit capable de penser la science autrement qu'en termes de, il faut avoir la meilleure machine possible.
Voilà, donc vous avez évoqué la science, à quoi elle sert, à qui elle sert, et aussi qui elle sert. Si on va plus loin, vous avez fait aussi un parallèle entre la science en tant que culture. Est-ce qu'il y a un parallèle entre la science et le progrès? C'est-à-dire, est-ce que la science induit le progrès humain?
Alors, l'idée qui s'est mise en place au XVIIe siècle avec ce qu'on appelle la révolution scientifique, c'est que le développement de la science allait permettre le progrès de l'humanité. Le progrès de l'humanité, parce que la science allait permettre d'être, comme dit Descartes, maître et possesseur de la nature. Alors d'abord, il faut revenir sur une chose, le maître et possesseur de la nature, bon, c'est Descartes qui l'a dit, mais ça c'est ancien. La grande révolution, et peut-être la seule révolution anthropologique qu'il y a eu dans l'humanité, c'est l'invention de l'agriculture. Le reste, ça a été du plus. Parce que l'invention de l'agriculture et de l'élevage, qui se passe à peu près en même temps, au début du néolithique, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 000 ans, c'était sortir de la chasse et de la cueillette pour fabriquer soi-même les objets, plantes ou animaux, dont on avait besoin pour se nourrir, pour se vêtir, etc. C'est une transformation qui a eu un rôle essentiel, pas seulement parce qu'elle a permis un progrès, mais parce qu'elle a mis en place aussi les dégâts. Un des premiers dégâts que les écologistes devraient savoir, au lieu de tenir des discours un peu n'importe comment, c'est, je dis pas qu'ils ont tort, mais ils ont un discours qui est purement idéologique et parfois même religieux. L'agriculture a entraîné des déforestations. Ben, il fallait bien créer des prairies, des prés, des endroits pour pouvoir cultiver. Une déforestation, ça change le climat. Qu'on le veuille ou pas. Parce qu'effectivement, ça transforme complètement l'équilibre d'une partie de la biosphère. Il y a eu aussi autre chose, ça l'a rappelé un géologue de l'île 1 quand on a présenté le livre à propos de la science, qui a été édité par l'USTEP Culture. L'irrigation. L'irrigation, c'est une transformation aussi. Une transformation du terrain. On détourne les rivières et donc on change l'équilibre de la biosphère. Mais il fallait le faire. Bon, sinon il n'y avait pas d'agriculture. L'élevage. L'élevage, ça a consisté à transformer les espèces. Les espèces aussi bien végétales qu'animales. Le paysage que vous voyez, la campagne que vous voyez, c'est pas un paysage naturel, même si on trouve que c'est beau, que c'est idyllique. Non, c'est un paysage qui a été reconstruit par l'homme. Les animaux, on a des races différentes, mais des races qui sont liées à des croisements, à des, je veux dire, avant de connaître la théorie de l'évolution, on savait effectivement croiser les races pour avoir des vaches particulières, des chiens particuliers, etc. Et je rappelle quand même que Darwin s'est inspiré un peu du travail des éleveurs pour penser la théorie de l'évolution. Bon. Donc, la science et la technique se sont mêlées. Est-ce qu'on peut parler de science au sens moderne du terme ou pas? Là, on peut discuter longtemps, mais effectivement, les premiers agriculteurs avaient des notions qu'on appellerait scientifiques, même si elles étaient pas très évoluées. Mais quand vous faites de l'agriculture, bah, vous devez connaître le calendrier. On ne décide pas de faire le labour, les semailles et la moisson quand on a envie. C'est lié à l'année. Et une des raisons du calendrier, c'est l'agriculture. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut penser. Et après voir effectivement, parce qu'aujourd'hui on a des moyens tels que l'action sur le climat, l'action contre la biosphère devient bien plus importante qu'elle l'était il y a 10 000 ans. Mais il faut penser ça avant de dire oui ou non au progrès. Le progrès, c'est quelque chose, c'est un mot assez vague. Mais le progrès, c'est aussi la façon dont l'homme sait utiliser ses connaissances pour vivre. Actuellement, elles sont un peu utilisées n'importe comment. C'est là qu'il y a un problème. Alors le résultat, c'est qu'effectivement, il y a une tendance à dire tout ça, c'est la faute à la science. Non, c'est pas vrai. C'est pas la faute à la science. La mécanique quantique et la physique nucléaire, ça fait la bombe atomique et ça soigne le cancer. Il y a les deux. La question, c'est de savoir maintenant comment on travaille sur les deux. Je veux dire, comment on arrive à penser les deux, non pas en disant on veut plus entendre parler de nucléaire, non. L'Institut Curie à Paris utilise la radioactivité pour soigner le cancer. Bon, donc il ne s'agit pas de dire pour ou contre, mais essayer de comprendre. Alors, si le mot culture scientifique a un sens, c'est essayer de comprendre les enjeux, les possibilités, de savoir se battre contre les mésusages, y compris la façon dont, je dirais, la société capitaliste se sert de la science pour améliorer les ventes, mais d'autre part, pour savoir aussi qu'est-ce que ça apporte sur le plan, y compris sur le plan de la vie quotidienne. Donc je crois qu'il y a les deux. C'est peut-être à ça qu'il faut penser quand on parle de culture scientifique, c'est-à-dire arriver à penser la science autrement qu'en termes de bien et de mal, mais en termes de possibilités. L'image de la science dans la société, c'est quelque chose, bon, je dirais, c'est pas, c'est-à-dire la façon dont est pensée la science. Alors là, je donnerai un exemple que je trouve frappant. Que je trouve frappant parce qu'il montre quand même qu'une société aussi technicisée que la société actuelle, je parle des pays développés, peut être en même temps une société obscurantiste. Je donne l'exemple suivant. En 89, il y a un événement extraordinaire. Il s'est passé, je ne sais pas si les gens l'y pensent encore, on envoie une sonde spatiale sur Neptune. Elle met 2 ans pour y arriver. Elle arrive sur Neptune à peu près à l'époque où on attendait qu'elle y arrive. Et elle a permis d'avoir, de prendre des photos, enfin, de faire tout ce qu'il fallait pour avoir des renseignements sur la planète Neptune. Remarquable. Sur le plan technique, c'est quelque chose de remarquable. tout en sachant d'ailleurs que cette technique s'appuie sur des mathématiques assez complexes, qui ont été inventées depuis le XVIIIe siècle, avec effectivement ensuite l'usage des ordinateurs pour pouvoir faire les calculs. Mais les ordinateurs, ce n'est pas eux qui ont fait les calculs. Les ordinateurs, ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Il y a une théorie qui s'appelle la mécanique céleste, qui s'est mise en place, mettons, depuis Newton. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qui a permis d'envoyer ces satellites, non pas en visant, parce qu'on ne vise pas Neptune. On sait qu'il va y avoir un voyage d'à peu près 2 ans. On calcule la trajectoire et on envoie ensuite, dans les conditions qu'il faut, la sonde, de telle façon qu'elle suive la trajectoire à laquelle on a pensé. Alors, une chose qu'il y a eu, c'est que, bon, c'est admirable, mais est-ce qu'on sait pourquoi c'est admirable? Il y a eu une enquête sur les jeunes et la science qui a été faite à peu près à la même époque. Les lycéens trouvaient ça remarquable. N'empêche qu'ils ne voyaient pas le rapport, et, parce qu'il n'est pas facile à voir, entre cet exploit remarquable, et puis ce qu'ils apprenaient au lycée, en mathématiques et en physique. Et que peut-être ça, c'est quelque chose d'important. L'enseignement, ça doit permettre aux gens de comprendre la science. Ce n'est pas le cas actuellement. L'enseignement scientifique, dans les pays développés, pas seulement en France, est mauvais. Et mauvais pourquoi? Parce qu'on veut le rendre facile, la science. Bon, ça, je le sais par expérience, c'est pas facile. Il faut se fatiguer. Dès que vous étudiez quelque chose dans n'importe quelle science et que vous essayez de comprendre, eh ben c'est pénible. Il n'y a pas de voie royale, il n'y a pas de voie simple. Par conséquent, ça pose un problème aussi. La culture scientifique n'a de sens que s'il y a un enseignement scientifique consistant. Sinon, ça devient une espèce de bavardage plus ou moins gentil.
Mais monsieur Rudolf Kuhr, je vous remercie beaucoup.
Ben, je vous remercie. Thank you.